Avec une enclume sur le dos, les pieds liés et le vent de face. C'est déjà plus dur d'aimer la vie, de faire des sourires dans la glace. On a perdu la première manche, mais le même joueur rejoue. Le destin nous a giflé, on veut pas tendre l'autre joue. Alors va falloir inventer avec du courage plein les poches. Trouver autre chose à raconter pour pas louper un deuxième coche. Il y avait sûrement plusieurs options et finalement on a opté pour accepter cette position, trouver un espoir adapté. Alors on va relever les yeux quand nos regrets prendront la fuite. On se fixera des objectifs à mobilité réduite. Là-bas au bout des couloirs, il y aura de la lumière à capter. On va tenter d'aller la voir avec un espoir adapté.
Tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences.
Espoir adapté, c'est l'envie de croire qui résiste. Même en milieu hostile, c'est la victoire qui existe. Ces cinq potes un peu perdus qui tentent de battre encore des ailes. C'est retrouver le goût de la sueur entre deux barres parallèles. Un espoir adapté, c'est de l'espoir bousculé. Parce qu'on est dos au mur, y a plus de place pour reculer. Comme un instinct de survie, on pense encore à avancer. À la fin de quelque chose, y a bien un truc à commencer. Après avoir nagé au cœur des points d'interrogation, on va sortir de la torpeur, certains diront reconversion. Là-bas au bout des couloirs, y aura de la lumière à capter. On va tenter d'aller la voir, avec un espoir adapté.
Chers auditeurs de Tranche de Vie, nous allons poursuivre aujourd'hui notre exploration des activités de l'association Aurore, que nous avons commencé avec Kauser. Et aujourd'hui, nous allons nous adresser à Marion, qui travaille aussi à l'association Aurore d'Ordogne, et qui va nous parler de son activité en économie sociale et familiale au sein de cette association. Marion, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation pour nous permettre d'aller un peu plus avant dans l'exploration des activités d'Aurore. Vous êtes chargé, m'avez-vous dit, de l'économie sociale et familiale. Qu'est-ce que ça recouvre? Quelles sont les activités qui vous sont imparties au sein d'Aurore?
Tout d'abord, bonjour à tous et merci de m'accueillir dans votre studio. Effectivement, je suis conseillère en économie sociale et familiale au sein des appartements de coordination thérapeutique de l'association Aurore sur Périgueux. En tant que CESF, je suis en charge de l'accompagnement social et de l'insertion professionnelle des 11 résidents que nous accueillons sur la commune. Donc mon champ d'intervention est assez vaste. J'interviens dans la mise en place et dans le maintien des droits des résidents. Donc ça va de l'ouverture à une couverture maladie, à une mutuelle. Par rapport à l'insertion professionnelle, j'interviens et les aide à l'inscription, par exemple, dans les services de Pôle emploi ou de Cap emploi. On fait un petit tour global de leur situation socio-professionnelle et je les accompagne dans les difficultés qu'ils peuvent rencontrer.
Alors, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs quelles sont les personnes à qui vous avez affaire? Est-ce que ce sont uniquement des gens qui avaient demandé le droit d'asile et qui l'ont obtenu, ou bien est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent ressortir à votre intervention?
Alors nous, notre porte d'entrée aux appartements de coordination thérapeutique, c'est la pathologie chronique. Donc c'est-à-dire qu'on accueille des personnes qui sont porteurs donc, de maladies chroniques somatiques invalidantes.
Quel que soit leur statut, par ailleurs.
Quel que soit leur statut.
D'accord.
Voilà. Donc comme maladie chronique, on peut citer le diabète, le VIH, la sclérose en plaques, le cancer. Et voilà, la liste est assez longue. Et ce sont des personnes qui sont en grande situation de précarité, avec très souvent un parcours d'errance, avec des séjours d'hospitalisation de longue durée. Donc il n'y a pas du tout l'accès aux ACT ne se fait pas en fonction d'un statut de réfugié.
D'accord, voilà, d'accord. Sur les 11 personnes dont vous vous occupez, est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu de l'origine de ces personnes? Ou bien est-ce que c'est une question qu'il vaut mieux pas aborder?
Non, du tout. On peut répondre à cette question. C'est des personnes de tout milieu, aussi bien des personnes françaises que d'origine étrangère. La politique d'Aurore est d'accueillir toute personne, sans distinction aucune. Donc on reçoit des hommes et des femmes d'horizons très variés.
Et alors, parmi ces personnes, il y a des membres de même famille ?
Ça s'est déjà montré aux ACT. En ce moment, non. On accueille principalement des personnes seules et isolées.
Donc à qui, comme vous l'avez expliqué, vous apportez votre aide pour leur faire trouver du travail, pour leur permettre de retrouver leur équilibre, pour leur permettre d'accéder à des droits dont ils ne sont peut-être pas forcément informés, etc. C'est bien ça.
Voilà, c'est ça. Nous, les appartements de coordination thérapeutique, c'est une pause dans leur vie, dans leur parcours. On leur met à disposition des appartements pour qu'ils puissent prendre le temps de se poser, de prendre soin d'eux, de s'occuper de leur pathologie.
Retrouver leur équilibre à la fois physique et mental.
Voilà, c'est vraiment un accompagnement global. On traite la santé, on traite les démarches administratives, on traite l'insertion professionnelle. On fait vraiment un bilan autour de la personne accompagnée pour répondre au mieux à ses besoins.
Alors, ces personnes, après on va parler de votre formation et de ce que recouvre ce diplôme d'économie sociale et familiale, qui est, comme vous le rappeliez tout à l'heure, un diplôme d'État. Ces personnes, elles vous sont envoyées par qui ?
Alors, principalement des hôpitaux. Du département, mais aussi de toute la France, de nos partenaires locaux, des associations d'insertion, des centres d'hébergement d'urgence. Voilà, on essaye de travailler au maximum avec nos partenaires du territoire, mais il nous arrive d'accueillir des gens qui viennent de régions parisiennes ou d'autres départements.
Ça, c'est des personnes qui vous sont signalées par diverses structures qui sont déjà préoccupés par la situation de ces personnes et qui vous les signalent comme ayant des besoins particulièrement aigus.
Voilà, c'est ça. C'est des personnes qui sont déjà identifiées, que ce soit par le secteur médical ou social. Et après, un dossier de candidature nous est adressé. Et après examen de ce dossier, on donne suite ou non.
Alors, vous dites dossier de candidature. Kauser, lorsque nous l'avons interrogé, nous a dit qu'effectivement, vos moyens étaient limités. Est-ce que vous êtes submergé de candidatures ou bien comment ça se passe ? Est-ce que vous arrivez à faire face à toutes les propositions que vous font les associations d'insertion et les organismes qui vous adressent ces personnes ?
Malheureusement, non, on n'arrive pas à y faire face. Ici, en Dordogne, nous sommes la seule association qui proposons le dispositif d'appartement de coordination thérapeutique. On a 11 places, donc ce qui est très peu. Donc on fait face à une liste d'attente qui est conséquente et malheureusement, on ne peut pas répondre à toutes les situations qu'on nous adresse.
D'accord. Quand vous dites 11 places, c'est donc les 11 places disponibles et ce n'est pas les 11 personnes dont vous avez à vous occuper, vous, en fonction de votre rôle au sein de l'association.
C'est les 11 appartements de coordination thérapeutique et je m'occupe de ces 11 personnes.
D'accord. Et alors, donc... Alors, on va faire une petite pause quand même pour vous demander comment on arrive à exercer le métier que vous exercez. Ce diplôme d'économie sociale et familiale, quel est le cursus pour y arriver ? Comment vous êtes arrivé là ?
Alors, tout d'abord, moi, après mon bac, j'ai entamé des études d'ESF par le biais d'un BTS que j'ai réalisé au centre de formation et de promotion de Champs-Vinel. Et pour devenir CESF, il faut faire une année complémentaire, donc une année de diplôme d'État. Et à la suite de ces 3 ans d'ESF, on devient donc travailleur social et conseillère en économie sociale et familiale.
D'accord. Et ici, à Aurore, c'est votre premier emploi ?
Non, c'est mon troisième emploi. Voilà, ça fait 3 ans et demi que je suis à Aurore, mais j'ai eu d'autres employeurs par le passé.
Donc vous avez déjà une expérience déjà assez longue de ce genre de travail. À Aurore, qu'est-ce que vous avez découvert de nouveau ou de différent par rapport à vos précédents postes ? Est-ce que c'est le même genre de travail ? Est-ce que c'est très différent ?
Non, c'est différent. Aurore fonctionne vraiment sur des valeurs d'humanisme, de laïcité. Donc c'est très intéressant de travailler avec ces valeurs-là. On nous laisse aussi assez de liberté pour exercer notre profession. Et Aurore laisse à notre direction vraiment la possibilité de mener à bien notre projet de service et de ce fait de répondre au mieux aux besoins des gens qu'on accueille à l'instant T.
Concrètement, comment ça se passe? Vous avez... vous prenez contact, on vous présente aux personnes dont vous allez avoir vous occuper. Ces personnes, vous les installez vous-même dans les logements dont elles bénéficient?
Oui, c'est ça. On est soit propriétaire, soit locataire des appartements. Lorsqu'il y a une entrée, on prépare l'appartement, donc c'est-à-dire qu'il y a l'ensemble des meubles, les équipements ménagers, on va dire, de base. Et effectivement, je réalise l'entrée de ces personnes dans leurs appartements, avec la remise des clés, avec l'état des lieux. Et à la suite de ça, voilà, l'accompagnement s'enclenche. On les laisse aussi s'installer, qu'ils prennent le temps de prendre leur marque, de visiter un petit peu le quartier aussi. Et après, on aborde les difficultés qu'ils peuvent rencontrer.
Alors, quelles sont les ressources de ces personnes? Enfin, ces personnes sont à la fois dans la difficulté physique, qui sont apparemment graves souvent. Quel est leur degré d'autonomie? À partir de quand dites-vous, ben non, cette personne, elle ne peut pas vivre seule dans un appartement parce qu'elle n'a pas les moyens d'effectuer les tâches quotidiennes d'entretien, etc. Comment ça se passe concrètement?
Alors c'est une évaluation. Lorsque notre partenaire nous envoie le dossier de candidature, on insiste bien sur l'importance de répondre à ces questions-là, à savoir si la personne est en capacité de gérer son appartement, en capacité de faire ses repas. Après, lorsqu'on rencontre la personne pour une éventuelle admission, c'est des sujets où on reste assez longtemps, justement pour avoir plus de détails. On accorde de notre attention dessus parce que c'est des personnes qui vont être seules le soir, qui vont être seules le week-end quand le service est fermé. Voilà, y a l'astreinte qui est disponible en cas de besoin, mais les ACT restent un tremplin vers un appartement autonome. Donc,
ça veut dire que vous avez, et l'association Aurore a une grande responsabilité. Quand il y a des périodes comme les week-ends à traverser, effectivement, où ces personnes se retrouvent toutes seules, comment ça se passe concrètement? Est-ce que c'est pas trop compliqué, pas trop difficile? J'imagine qu'il doit, de temps en temps, il doit quand même y avoir des problèmes assez sérieux à affronter.
Oui, très souvent on a des situations assez complexes. Effectivement, elles ne s'arrêtent pas le vendredi soir à l'heure de la débauche, effectivement. Ouais. Donc on essaye au préalable de mettre en place des partenaires pour garder le lien. On a toujours des craintes ou ça nous arrive aussi en tant que professionnel, effectivement, quand il y a des Quand l'accompagnement est coupé comme ça pendant un week-end, on a des interrogations parfois, oui.
Alors, les personnes dont vous occupez, est-ce qu'elles sont amenées à fréquenter régulièrement les locaux que j'ai visités l'autre jour, qui constituent un petit peu votre quartier général?
Oui, c'est ça.
Et est-ce que là, il y a... des enseignements théoriques, si on peut appeler ça enseignements, qui leur sont dispensés
Oui, déjà, il y a tous les rendez-vous qui se réalisent au bureau avec ma collègue infirmière ou avec moi-même. Soit c'est des visites à domicile, soit c'est au bureau, mais effectivement, dans nos locaux, on propose des temps collectifs avec l'ensemble des résidents. C'est très varié, hein. On peut proposer des repas thérapeutiques, des temps de jeux société, on peut se rendre à la piscine. On essaye un petit peu de diversifier les activités que l'on propose pour que ça réponde et que ça plaise au maximum de résidents. Donc ils peuvent aussi très bien venir prendre un café, discuter avec nous. C'est vraiment un lieu que l'on souhaite être ouvert au maximum pour que les résidents se sentent au mieux.
Mais alors là, ça recouvre quand même tout un ensemble d'activités, ce que vous faites. Ça veut dire que vous pouvez aussi bien essayer de convaincre ces personnes de se nourrir correctement, que les aider à chercher un emploi, leur dire à quelle porte il faut frapper. Comment arrivez-vous à concilier tout ça ?
On prend le temps. C'est la première chose qui me vient en tête, c'est qu'en appartement de coordination thérapeutique, nous n'avons pas de date limite de prise en charge. Donc on prend le temps, le résident prend le temps d'identifier aussi ses priorités. Donc voilà, au fur et à mesure des mois, on traite les choses une à la fois
Alors, vous dites que vous prenez le temps, mais lorsque vous accueillez une personne, vous l'accueillez pour un temps limité, en principe.
En principe, on signe un contrat de séjour qui généralement est d'une durée de 6 mois, mais renouvelable autant de fois qu'il est nécessaire.
Ah d'accord.
Donc c'est vraiment une valeur ajoutée aux appartements de coordination thérapeutique.
Et est-ce qu'il vous arrive d'avoir justement des personnes dont la remise en selle, pourrait-on dire, s'avère particulièrement difficile et longue?
Oui, on a des accompagnements qui ont duré 3, 4 ans. Voilà, c'est quelque chose qui est assez fréquent en ACT.
Autre question qui me vient à l'esprit, parmi les personnes dont vous vous occupez, les 11 occupants de ces appartements, quelle est la proportion d'hommes et de femmes et quel est l'âge moyen de ces personnes?
À peu près 70% d'hommes et donc 32 femmes. La moyenne d'âge est d'à peu près 45 ans.
Oui.
On accueille de plus en plus de jeunes. On peut constater ça ces dernières années, des jeunes avec des pathologies diverses. Hein. Mais c'est quelque chose qu'on peut remarquer, effectivement.
Pathologies liées à leur style de vie, addiction.
Alors style de vie ou des pathologies voilà qu'ils ont depuis leur enfance. Voilà les personnes qu'on accueille ont des pathologies qui sont répertoriées sur la liste ALD, donc c'est très vaste et du coup on s'adapte à chaque personne et à chaque pathologie. On pourrait passer très longtemps à les citer.
Vous pouvez traduire là, le cycle
de longue durée, pardon.
Affection de longue durée,
oui.
D'accord. Alors, vous avez fait allusion au fait que vous travaillez avec des collègues qui ont des attributions spécialisées comme l'infirmière. Qu'est-ce qu'il y a encore comme dans l'équipe d'intervenants auprès des personnes oui. occupées?
Donc nous, on est une équipe pluridisciplinaire. Donc nous avons M. Van Mel, notre directeur, un médecin coordinateur, donc comme je disais, une infirmière, une psychologue, un accompagnant éducatif et social, un technicien logistique qui intervient dans les appartements pour effectuer l'entretien
oui.
quand cela se présente, et moi-même en tant que travailleur social.
Bon, alors ça fait beaucoup de personnes, ça. Toutes les personnes que vous occupez rencontrent régulièrement ces différents intervenants?
Oui, pour la plupart. Après, c'est libre aussi, adhésion. On force personne à rencontrer tel ou tel professionnel, mais c'est fortement encouragé par toute l'équipe.
Avec le recul que vous avez maintenant, est-ce que le bilan est positif? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des situations que vous pouvez évoquer, nous décrire, où vous avez vraiment sorti des personnes du trou et que vous les avez vraiment remises en selle et qu'elles ont pu prendre un nouveau départ dans la vie après avoir subi toutes sortes d'accidents?
Alors, je pense que c'est déjà pas nous qui les remettons sur selle, mais c'est eux qui retrouvent des moyens de se remettre sur leur chemin. Mais effectivement, oui, on a des belles réussites et qui nous motivent chaque jour. Alors là, je pense notamment à une femme qui a fait un long séjour chez nous d'environ 5 ans, avec voilà, des phases de grande fragilité où l'ensemble de l'équipe a été là pour la relever. Ça a été un petit peu un accompagnement en dents de scie. Voilà, pendant l'accompagnement, on a mis tout en place pour stabiliser sa situation et la protéger au mieux. À ce jour, elle est dans un appartement autonome avec des partenaires qui sont autour d'elle. Voilà, les retours qu'on a sont plus que positifs.
Ça, c'est la situation idéale. Est-ce que vous avez parallèlement des situations d'échec que vous n'avez pas pu réussir à surmonter?
Il y a des situations qu'on a pensé avoir amené au succès, mais quelques temps après, ça nous est déjà arrivé de recevoir une nouvelle candidature pour des personnes avec la déclaration d'une nouvelle pathologie ou une rechute dans la maladie. Donc ça peut nous arriver dans notre travail.
Chaque personne dont vous occupez est un cas particulier, j'imagine.
Ah oui, il n'y a pas de... Chaque situation est différente. Les personnes ont leur propre histoire, ont leur propre passé. Donc on n'a pas de manuel pour les accompagner. Non.
Malgré ça, est-ce que vous avez votre action ça comporte un petit peu, puisque vous parliez de psychologue tout à l'heure. Est-ce qu'on peut essayer d'entraîner ces personnes à une plus grande résilience ?
Oui, on y travaille, oui, notamment avec ma collègue psychologue, effectivement. En ACT, on parle beaucoup. On fait des démarches administratives, des papiers, on fait tout ça, mais c'est aussi prendre
tout
le temps.
Tout ça, vous le faites avec les personnes concernées ?
Oui. Oui, je fais, je fais pas à la place d'eux, je fais avec. Le but est de tendre vers l'autonomie. Donc le but est de leur apprendre et pour qu'ils soient en capacité de le faire après seuls. Mais oui, on discute beaucoup avec les personnes, on prend le temps d'écouter leur histoire, d'écouter leurs difficultés. Et je pense que ça aussi qui est en grande partie la réussite dans leur accompagnement.
Ce travail, forcément, vous amène à créer des liens quand même assez étroits avec les personnes dont vous occupez. Est-ce que les retours que vous avez sont suffisamment gratifiants pour vous encourager à continuer ? Est-ce que c'est à chaque fois une petite aventure humaine qui vaut la peine d'être tentée ?
Oui. Oui, oui, clairement, on partage des moments, par des temps informels parfois, ou pendant les temps collectifs, ou autour d'un repas, autour d'une activité piscine. Forcément, il y a d'autres choses que purement le professionnel qui peuvent se mettre en place. Et un sourire, une main sur l'épaule, c'est gratifiant pour nous et on n'en demande pas plus.
Vous réussissez à conserver des liens avec les personnes qui sont passées par Aurore et puis qui ensuite ont continué leur chemin dans la vie, quelquefois en arrivant à reprendre leur vol.
De temps en temps, pour les personnes qui sont restées à proximité de nos locaux, ça nous arrive de les croiser. Donc c'est à chaque fois un bonheur de les voir voler de leurs propres ailes et avoir... De leurs nouvelles. Après, c'est pas une majorité. Beaucoup partent des ACT avec des craintes, des inquiétudes. Mais une fois qu'ils sont dans leur logement autonome, c'est une nouvelle vie qui s'offre à eux. Et ils ont aussi ce besoin de faire une coupure avec les appartements de coordination thérapeutique.
Il y a un aspect de l'activité d'Aurore que nous n'avons pas abordé, en tout cas dans le secteur où vous intervenez. Il y a des bénévoles à Aurore.
Oui, il y a des bénévoles à Aurore, grand nombre.
Et qu'est-ce qu'ils font alors en économie sociale et familiale ?
Alors nous, sur Périgueux, aux appartements de coordination thérapeutique, on ne travaille pas avec des bénévoles parce que l'occasion ne s'est pas présentée. Donc je ne pourrais pas m'avancer sur le fonctionnement dans d'autres services.
Mais il pourrait y en avoir ? Ou est-ce que c'est trop spécialisé pour envisager l'intervention de bénévoles ?
Ça pourrait être justifié. Là, actuellement, on a 11 places. Après, si notre service tend à s'agrandir, peut-être que le besoin va se faire sentir, effectivement.
Parmi les personnes que vous avez, est-ce qu'il y a des gens qui ont un handicap extrêmement lourd et à surmonter et qui justifie peut-être l'intervention d'autres organisations pour leur permettre d'avoir un semblant d'autonomie.
Tout à fait. Nous, là, on a des personnes qui peuvent présenter une hémiplégie, une paraplégie. Donc on met en place un réseau d'aide à domicile Donc ça soit pour la toilette, pour la préparation des repas, on organise autour du résident l'intervention de professionnels pour qu'il puisse les garder à sa sortie du dispositif ACT. C'est vraiment notre souhait. Donc ça va aussi bien de l'infirmière libérale, de la mise en place de mesures de protection. On assure la sécurité au-delà des ACT.
Cet encadrement, quand même, qui prend toutes sortes de formes, qui est lourd et diversifié, a probablement forcément un coût. Est-ce que la question des moyens, pour vous, se pose, et est-ce que c'est quelquefois une limite pour votre travail ?
Oui, ça peut être une limite.
Tu peux prendre quelques exemples concrets pour dire voilà, ça on aimerait le faire, mais on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas suffisamment de moyens. Ou...
Après, les appartements de coordination représentent un coût important parce que nous sommes propriétaires ou locataires des appartements. Donc, forcément, déjà cette part dans notre financement est importante. Donc, ça peut éventuellement nous bloquer sur certaines activités que l'on souhaiterait mettre en place, des séjours ou voilà. Mais jusqu'à présent, on a essayé de gérer au mieux pour proposer un maximum d'activités à nos résidents.
Je vais vous poser une dernière question sur votre activité. Vous avez maintenant une certaine ancienneté dans le travail que vous faites à Aurore. Est-ce que vous sentez l'usure ? Est-ce que c'est un travail qui est... Est-ce que quelquefois vous avez des moments de doute ou de découragement ?
Pas de découragement, non. Après, sûr, c'est un travail qui impacte au niveau psychologique. Hein. C'est voilà, le soir, quand on quitte notre bureau, on n'oublie pas toutes les situations des résidents. Donc oui, on y pense. Voilà, le soir, le week-end, ça nous arrive quand il y a des situations qui sont très, très inquiétantes, très préoccupantes. On y pense beaucoup, mais en aucun cas un découragement. Aucun.
Non, ça ne vous arrive pas de dire « je préférerais être jardinière ou professeur des écoles ou, ».
Non, du tout. Le contact avec ces personnes-là est tellement important, en tout cas pour moi. Voilà, le contact humain me manquerait trop.
Malgré tout, quand vous dites que quelquefois vous y pensez encore après avoir quitté votre travail... Alors, qu'est-ce que vous faites pour à côté ? Est-ce qu'il y a une vie à côté d'une personne comme vous qui est chargée de
l'ESF ? Il y a une vie, il y a un bébé de 6 mois à s'occuper. Donc, forcément, ça fait une coupure et on se retourne vers la vie. Oui.
D'accord. Et autrement, en dehors du bébé de 6 mois, vous avez des hobbies, vous avez des passions particulières.
Le cinéma ou quelque chose qui... ouais, voilà, le cinéma où vraiment pendant une heure et demie, deux heures, ça me coupe totalement. Et de savoir qu'il n'y a pas de téléphone, rien qui pourra m'interrompre dans cette action, c'est...
Et quelque chose de particulier dans le cinéma ? Vous avez des passions particulières pour tel réalisateur ou tel genre de film ?
C'est plus... des autobiographies ou des choses qui relatent des faits réels, des histoires réelles qui me touchent particulièrement. Voilà, ça rejoint toujours lui-même.
Oui.
Mais voilà, c'est dans ça que je me retrouve principalement.
Marion, merci beaucoup de votre témoignage émouvant. Bon courage.
Merci à vous. Merci de m'avoir reçu.
Pour continuer ce beau travail. Et bonne chance à Aurore. Qui
Merci
fait
vous.
Tant pour les personnes en grande difficulté.
Tout à fait. Merci à
Au
vous.
Revoir.
Au revoir.
Un espoir sans oublier ceux qui saignent, car dans cette quête on n'est pas tous logés à la même enseigne. Moi j'ai eu ma deuxième chance et même si je peux la rendre belle, je pense souvent à la tristesse du dernier sourire de Noël. Un espoir adapté, c'est faire le deuil de tous les
C'était
autres.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.
Propre comme au figuré, ceux qui ont adapté leur vie pour rendre la mienne moins compliquée. Can you hear me?